Hashtag 2050 le podcast, c'est votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Montez à bord, installez-vous confortablement. Le futur commence ici et maintenant.
Souvent, la question « comment ça va ?» est posée à la va-vite. La réponse est à peine attendue. Mais là, j'aimerais vraiment savoir comment vous allez toutes et tous. Comment tu vas toi, en particulier. Moi, ça va. Je ne suis pas d'une nature angoissée, donc ça va. Mais je n'ai pas répondu à l'appel de la productivité à tout prix à domicile. Je ne me suis pas mise au yoga, je ne lis pas un livre par jour. J'assure plus ou moins bien la mission d'école à la maison. Je cuisine plus, ça oui. Mais je n'écoute pas plus de podcasts. Je traîne, mais ça va. Je suis plutôt une personne solitaire, donc je n'ai pas la sensation de souffrir du confinement. Et vous ? Comme je le disais dans le précédent épisode, j'ai le sentiment que Hashtag 2050 est devenu obsolète. Parce que depuis 3 ans, avec mes invités, on tente d'imaginer l'après, dans 30 ans. L'après quoi, justement ? On évoque toujours, ou presque, un temps de rupture. Pas forcément quelque chose de brutal, soudain, mais une rupture. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous vivons une rupture. Il y aura forcément des soubresauts du monde d'avant, des résistances, mais j'ai le sentiment que les conflictualités vont grandir. Bref, Hashtag 2050 est dépassé en ce qu'il regarde trop loin, quand le présent est bouleversement. Donc cette semaine, pas de rapport du GIEC dans mon horizon immédiat. Je vous propose plutôt une revue de presse d'articles qui manquent dans le présent, tout en m'en libérant. Peut-être les avez-vous lus, peut-être pas. Et si vous avez lu, écouté d'autres contenus qui vous aident à réfléchir à cet après presque immédiat, n'hésitez pas à me partager vos recommandations sur mon répondeur, le lien est en description, ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Merci d'avance. Pour commencer, un article en anglais de Yuval Noah Hariri, l'auteur de Sapiens, Homo Deus et 21 leçons pour le 21e siècle. Cet article est intitulé « Le monde après le coronavirus ». Il développe principalement le risque de basculement vers des sociétés de surveillance généralisée. Une surveillance sous la peau, des données biologiques, sous couvert de considérations sanitaires. Mais surveiller notre cœur, notre température, explique-t-il, c'est connaître nos émotions. Ce serait là la plus grande menace. Ensuite, direction reporter. Résistance climatique, c'est le moment. C'est le titre d'une tribune qui constate que volonté politique et volontarisme citoyen conjugués ensemble peuvent faire basculer le fonctionnement de la société. Devenons cette minorité motrice, catalyseur enthousiaste d'une transition désirable, capable d'initier le changement nécessaire dans toute la société. Tiens, ça me rappelle notre conversation avec Elisabeth Laville. Les auteurs décrivent 5 phases pour transformer le monde. Première phase, les 4 actions, à l'échelle individuelle, pour modifier nos modes de consommation. Ensuite, alliance et influence, pour construire du collectif et de l'imaginaire désirable. Troisième phase, conflictualité et première victoire. La quatrième, décroissance énergétique massive et rapide, avec une pression particulière sur le transport aérien. Cinquième et dernière phase, passage à l'échelle mondiale. Parmi les signataires, Cyril Dion, Marie Toussaint, Bruno Latour, Magali Payen, Pablo Servigné, Françoise Vernet, pour ne citer que les plus connus. Filons maintenant du côté de la RTBF, qui propose un entretien croisé de 2 philosophes, Cynthia Fleury et Isabelle Stengers. On est en train de redécouvrir que les comportements collectifs nous protègent des vulnérabilités individuelles. Elle nous invite à ne pas confondre liberté et dépendance. En creux, j'y ai lu que le capitalisme nous rend totalement dépendants tout en nous berçant de liberté individuelle. Autre ambiance, toujours épidémique, mais dans le passé. Le journal Le Monde s'intéresse aux villes. Peste, choléra, tuberculose, les épidémies ont modelé nos villes. L'évolution de l'urbanisme est largement corrélée à la prise en compte des enjeux sanitaires populationnels. J'ai beaucoup aimé ce rapide voyage à travers les siècles. Reste à imaginer comment projeter ces préoccupations dans l'avenir. La santé aura beaucoup à faire dans l'aménagement des villes de 2050 et d'après. J'ai aussi beaucoup aimé une émission d'Arrêt sur image qui s'intéressait aux grandes épidémies du passé et comparait leur gestion, les réactions des populations. Spoil, en 2020, on ne fait rien de neuf en la matière, vous verrez. Un autre texte m'a beaucoup touché, le monologue du virus, publié par Lundi Matin. Ce texte est tellement fort qu'il est difficile d'en choisir un extrait, néanmoins je m'exécute en rêvant là tout de suite d'être une puissante lectrice à voix haute pour que vous sentiez le frisson parcourir votre corps. Sans moi, combien de temps encore aurait-on fait passer pour nécessaire toutes ces choses inquestionnables et dont on décrète soudain la suspension ? La mondialisation, les concours, le trafic aérien, les limites budgétaires, les élections, le spectacle des compétitions sportives, Disneyland, les salles de fitness, la plupart des commerces, l'Assemblée nationale, l'encasernement scolaire, les rassemblements de masse, l'essentiel des emplois de bureau, toute cette sociabilité ivre qui n'est que le revers de la solitude angoissée des monades métropolitaines. Tout cela était donc sans nécessité, une fois que se manifeste l'état de nécessité. Remerciez-moi de l'épreuve de vérité des semaines prochaines. Vous allez enfin habiter votre propre vie, sans les mille échappatoires qui, bon an mal an, font tenir l'intenable. Sans vous en rendre compte, vous n'aviez jamais emménagé dans votre propre existence. Vous étiez parmi les cartons et vous ne le saviez pas. Vous allez désormais vivre avec vos proches. Vous allez habiter chez vous. Vous allez cesser d'être en transit vers la mort. Vous haïrez peut-être votre mari, vous gerberez peut-être vos enfants. Peut-être l'envie vous prendra-t-elle de faire sauter le décor de votre vie quotidienne. À dire vrai, vous n'étiez plus au monde dans ces métropoles de la séparation. Votre monde n'était plus vivable en aucun de ces points qu'à la condition de fuir sans cesse. Il fallait s'étourdir de mouvements et de distractions tant la hideur avait gagné de présence. Et le fantomatique régnait entre les êtres. Tout était devenu tellement efficace que rien n'avait plus de sens. Remerciez-moi pour tout cela et bienvenue sur Terre. Grâce à moi, pour un temps indéfini, vous ne travaillerez plus. Vos enfants n'iront pas à l'école et pourtant ce sera tout le contraire des vacances. Les vacances sont cet espace qu'il faut meubler à tout prix en attendant le retour prévu du travail. Mais là, ce qui s'ouvre devant vous, grâce à moi, ce n'est pas un espace délimité. C'est une immense béance. Je vous désœuvre. Rien ne vous dit que le non-monde d'avant reviendra. Toute cette absurdité rentable va peut-être cesser. À force de n'être pas payé, quoi de plus naturel que de ne plus payer son loyer ? Pourquoi verserait-il encore ses traites à la banque, celui qui ne peut de toute façon plus travailler ? N'est-il pas suicidaire à la fin de vivre là, où l'on ne peut même pas cultiver un jardin ? Qui n'a plus d'argent ne va pas s'arrêter de manger pour autant, et qui a le fer a le pain. Remerciez-moi, je vous place au pied de la bifurcation qui structurait tacitement vos existences. L'économie ou la vie ? C'est à vous de jouer. L'enjeu est historique. Soit les gouvernants vous imposent leur état d'exception, soit vous inventez le vôtre. Soit vous vous attachez aux vérités qui se font jour, soit vous mettez la tête sur le billot. Soit vous employez le temps que je vous donne maintenant pour figurer le monde d'après, à partir des leçons de l'effondrement en cours, soit celui-ci achèvera de se radicaliser. Le désastre cesse quand cesse l'économie. L'économie est le ravage. C'était une thèse avant le mois dernier. C'est maintenant un fait. Nul ne peut ignorer ce qu'il faudra de police, de surveillance, de propagande, de logistique et de télétravail pour le refouler. Face à moi, ne cédez ni à la panique ni au déni. Ne cédez pas aux hystéries biopolitiques. Les semaines qui viennent vont être terribles, accablantes, cruelles. Les portes de la mort seront grandes ouvertes. Je suis la plus ravageuse production du ravage de la production. Je viens rendre au néant les nihilistes. Jamais l'injustice de ce monde ne sera plus criante. C'est une civilisation et non vous que je viens enterrer. Ceux qui veulent vivre devront se faire des habitudes nouvelles et qui leur seront propres. M'éviter sera l'occasion de cette réinvention, de ce nouvel art des distances. L'art de se saluer, en quoi certains étaient assez bigleux pour voir la forme même de l'institution, n'obéira bientôt plus à aucune étiquette. Il signera les êtres. Ne faites pas cela pour les autres, pour la population ou pour la société. Faites cela pour les vôtres. Prenez soin de vos amis et de vos amours. Repensez avec eux, souverainement, une forme juste de la vie. Faites des clusters de vie bonne. Étendez-les, et je ne pourrai rien contre vous. Ceci est un appel non au retour massif de la discipline, mais de l'attention. Non à la fin de toute insouciance, mais de toute négligence. Quelle autre façon me restait-il pour vous rappeler que le salut est dans chaque geste, que tout est dans l'infime ? J'en ai lu beaucoup, mais j'aurais pu en lire plus. Je finis avec un texte de Bruno Latour, sociologue et philosophe. Ça se passe sur le site de AOC et ça s'intitule « Imaginez les gestes barrières contre le retour à la production d'avant-crise ». Je vous en lis le chapeau. Si tout est arrêté, tout peut être remis en cause, infléchi, sélectionné, trié, interrompu pour de bon, ou au contraire accéléré. L'inventaire annuel, c'est maintenant qu'il faut le faire. À la demande de bon sens, relançons le plus rapidement possible la production, il faut répondre par un cri, surtout pas. La dernière des choses à faire serait de reprendre à l'identique tout ce que nous faisions avant. Bruno Latour propose 6 questions à se poser pour d'abord individuellement puis collectivement faire le monde d'après. Et je ne résiste pas à vous les soumettre. Question 1. Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles ne reprennent pas? Question 2. Décrivez, petit a, pourquoi cette activité vous paraît nuisible, superflue, dangereuse, incohérente? Petit b, en quoi sa disparition, mise en veilleuse, substitution rendrait d'autres activités que vous favorisez plus faciles, plus cohérentes? Question 3. Quelles mesures préconisez-vous pour que les ouvriers, employés, agents, entrepreneurs qui ne pourront plus continuer dans les activités que vous supprimez se voient faciliter la transition vers d'autres activités? Question 4. Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles se développent, reprennent, ou celles qui devraient être inventées en remplacement? Question 5. Décrivez petit a pourquoi cette activité vous paraît positive. Petit b, comment elle rend plus facile, harmonieuse, cohérente d'autres activités que vous favorisez. Et petit c, permettre de lutter contre celles que vous jugez défavorables. Question 6, enfin. Quelles mesures préconisez-vous pour aider les ouvriers, employés, agents, entrepreneurs à acquérir les capacités, moyens, revenus, instruments permettant la reprise, le développement, la création de cette activité? J'aime beaucoup l'idée de cet exercice. Si ces questions comme moi chatouillent vos méninges, on pourrait échanger là-dessus, non? Par exemple, pour les questions 1 et 4, je vous les rappelle. Question 1, quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles ne reprennent pas? Et question 4, quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles se développent, reprennent ou celles qui devraient être inventées en remplacement? Donc pour ces deux questions, qui appellent selon moi les réponses les plus intuitives, faisant appel à notre sensible, à nos désirs, que répondriez-vous? Et si vous me le disiez, alors ça peut être sur mon répondeur, ce serait top de vous entendre et même pourquoi pas de diffuser vos contributions, ou sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est tout pour ce hashtag 2050 en bref opus 6. Donc n'hésitez pas à me faire part de contenu que vous voudriez que je lise, que je regarde, que j'écoute. Je vous dis évidemment à très vite pour d'autres voix, d'autres conversations dans hashtag 2050, bientôt d'autres en bref. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous, de vos proches. Et en attendant, soyons toujours curieux.